Pour cette fête de la science 2025, nous avons décidé de nous arrêter sur les stands qui parlaient de l'eau, et notamment donc, avec les étudiants de cette école E de Lime, qui est spécialisée en eau et en environnement, pour nous parler du cheminement de l'eau, mais pas que, car nous avons parlé avec Dominique d'une belle association qui se nomme Préservons nos ressources en eau. On continue notre promenade et on s'arrête jouer avec ces jeux en bois parlant de mathématiques, sans oublier le public, pour savoir quel était leur centre d'intérêt.
Alors le stand ici, ça va être d'expliquer comment l'eau qui a plusieurs provenances, notamment des rivières, la mer, les nappes phréatiques, vont permettre d'atterrir dans le robinet et surtout en fait les métiers qui vont être associés. Selon vous, l'eau qu'on boit dans le robinet, elle vient d'où à peu près ?
De réservoirs d'eau, à savoir donc de rivières, de stockage et d'eau de pluie.
Oui, exactement, mais est-ce que selon vous, on peut les boire directement ou pas ?
Malheureusement, on ne peut plus les boire naturellement, il faut les traiter.
Pourquoi ?
Dû aux pollutions diverses et variées.
Ouais. À part les pollutions, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent jouer dedans ou pas ?
Les pollutions naturelles, style animaux morts, bactéries et autres.
Oui, exactement. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que l'eau qui vient d'un milieu naturel ne peut pas être directement absorbée par le corps humain, parce qu'on pourrait avoir des maladies ou autre chose. Et en fait, le stand, lui, va permettre de montrer comment on va arriver d'une eau qui est naturelle à une eau qu'on pourra utiliser, qui sera potable et qui pourra être utilisée dans la maison au quotidien. Et ça, notamment, la première étape, ça va être des usines de potabilisation. Leur travail, ça va être avec différentes réactions chimiques et physiques de transformer une eau qui sera mauvaise au départ en eau bonne. D'abord, on va avoir des systèmes de filtration qui vont permettre d'enlever tout ce qui est matière organique ou bactéries, parce que ça peut causer des maladies, des indigestions, donc beaucoup de choses. Mais ça, c'est une seule partie, parce qu'avec ça, on aura de l'eau qui est incolore. Mais est-ce que selon vous, une eau qui est incolore est forcément bonne ?
J'ai envie de te dire oui, évidemment, mais par instinct, mais quelque part, non.
Eh ben non, parce que dedans, on peut retrouver notamment des bactéries. Les bactéries, on ne les voit pas à l'œil nu. Et ça peut rentrer justement dans une eau qui est incolore. On a aussi, est-ce que le pH, ça vous parle ou pas ?
Complètement, acide ou basique.
Exactement. Une eau qu'on va boire, ou qui sera dans le milieu naturel, on va être entre 6 et 8. C'est une eau qui est à peu près bonne et qui pourrait être ingérée par le corps humain. Sauf que l'eau de Javel, est-ce que pour vous, on peut la boire ?
Non, c'est beaucoup trop acide.
Encore, eh ben non, c'est basique.
Ah, c'est basique.
C'est l'inverse. Et même si ça a c'est une couleur incolore, c'est limpide, ça ressemble à l'eau, mais il faut absolument pas la boire. Et notamment à cause de son caractère qui est extrêmement basique, qui peut avoir des répercussions importantes sur le corps humain. De l'autre côté, est-ce que vous avez déjà mangé des citrons ?
Oui, complètement.
Est-ce que c'est bon à manger un citron ou pas ? Est-ce que c'est agréable ?
Ça dépend d'où ils viennent. Dans les pays là où ils sont cultivés, où ils poussent au soleil, c'est pas mauvais. Sinon, c'est un petit peu acide, ouais.
Ouais, c'est acide, c'est amer, ça donne pas envie. Et ben justement, ça c'est l'autre côté. Avec le caractère acide, on aura des pH qui seront aux alentours de 0, 1 ou 2, qui eux aussi auront des répercussions sur l'organisme. Par exemple, l'acide chlorhydrique, qui est utilisé dans certains traitements, faut surtout pas l'avoir. Ça a peut-être même le même aspect que l'eau, mais ça aura pas du tout les mêmes répercussions sur l'organisme. Donc là, c'est pour montrer que juste une eau qui sera traitée par la couleur ne veut pas dire que l'eau sera bonne en soi. Donc il y a beaucoup de traitements, et ça va être du coup les usines de potabilisation qui vont permettre de prendre une eau qui était sale, que ce soit par sa couleur ou par les choses qu'il y avait dedans, en une eau qui sera bonne, sans bactéries, sans micro-organismes, et avec une couleur qui sera juste acceptable, mais aussi un potentiel, un pH qui sera lui aussi bon. Mais après, cette eau, quand elle vient chez vous, vous la buvez, mais vous faites quoi avec ?
Après, tu as toute la consommation autre qui sont machine à laver, WC, douche, voilà, ouais. Malheureusement.
Exactement, mais du coup, cette eau, est-ce qu'on peut la rejeter directement dans l'environnement ou pas ?
Là, malheureusement, non plus, puisqu'on intègre des produits externes à l'eau, donc il faut, une fois de plus, qu'elles soient retraitées.
Mais pourquoi il faut les retraiter ? Ça ferait quoi si jamais j'utilisais de l'eau de la Javel, justement, et je le mettais dans l'environnement, ça ferait quoi ?
Ça changerait le pH de l'eau, ça amènerait d'autres éléments que de l'eau naturelle, et donc ça aurait un impact sur la vie en général.
Exactement, donc on peut avoir un impact direct sur l'environnement, la biodiversité. Donc on a une nécessité de traiter ces produits, et ça, ça va être les usines de traitement d'eau qui vont prendre l'eau qui vient directement de chez vous pour traiter, pour enlever tout ce qui va être les produits chimiques, ramener à des pH qui sont corrects pour l'environnement, et donc les ramener, pour pouvoir les réintroduire dans l'environnement sans qu'il y ait de conséquences graves. Mais tout ce qui va être gardé, tout ce qui est mauvais, est-ce que vous savez dans quoi on peut les réutiliser ou pas?
Alors ça, j'en ai aucune idée. Je pensais que c'était brûlé ou je sais pas.
Eh ben non, ça c'est en fait ce qu'on appelle des boues. Ça va être le reste, par exemple, soit l'eau qui va rester ou alors tous les produits qui vont être pris, soit ils vont être dégradés avec d'autres micro-organismes, soit ce qui va rester et qui est bon pour l'environnement sera notamment utilisé pour l'agriculture. Et en fait, ça va permettre notamment avec l'eau d'arroser les champs et avec les boues de nourrir les sols. Et donc ça montre qu'en fait, l'eau qui sort des toilettes n'est pas directement rejetée dans l'environnement. Sinon, ça aurait des conséquences importantes sur dessus. On a d'autres systèmes, et notamment ce que je vous ai expliqué avec les champs, c'est ce qu'on appelle de la reuse. On va réutiliser l'eau que vous avez utilisée pour qu'elle ait un autre fonctionnement. Et ce qu'on veut montrer aussi dans ce stand, c'est qu'il y a des métiers qui sont associés à toutes ces étapes, qui ne sont peut-être pas mis en valeur tous les jours, comme les policiers, vous les voyez tous les jours, les pompiers aussi, les commerçants. Mais par contre, ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre, entre guillemets, vous ne les voyez pas tous les jours, mais sans eux, on n'aurait pas d'eau potable. Et ce qu'on veut montrer, c'est d'abord le petit cycle de l'eau, donc je vous ai présenté, mais aussi tous les métiers qui y sont associés et qui ne sont pas toujours mis en valeur.
Merci beaucoup. Alors, on est toujours sur l'eau, on est sur quoi?
On est sur les tests d'écotoxicité. Donc pour commencer, en général, on l'introduit en essayant de faire un peu chercher aux enfants ce que peut être une pollution, qui vont nous définir généralement par le fait qu'on jette des déchets dans la nature ou des choses comme ça. Donc nous, on leur explique que généralement, une pollution, c'est quelque chose qui va venir dégrader l'environnement. Donc pour ça, après, on va leur aborder aussi la notion de concentration à l'aide de 5 petits tubes où dedans, on a mis du colorant alimentaire en très très grosse quantité et qu'on a dilué ensuite pour avoir d'autres tubes avec une coloration un peu moindre. Et ensuite, on leur demande de remettre ces tubes-là dans l'ordre. On a un autre petit tube un peu subtil où on a mis un autre colorant dedans, on a mis moins d'eau dedans, mais on a mis une très forte concentration en colorant aussi. Et donc là, en gros, on va leur faire comprendre que l'effet un peu de dilution, s'il y a moins d'eau mais qu'il y a beaucoup de produits, eh ben, ça va être très très concentré et que si on vient à rajouter de l'eau, ça va le diluer. Par exemple, dans les rivières, quand il y a une pollution à un endroit qui se déverse, à l'endroit où elle se déverse, ça va donc être très concentré. Mais au fur et à mesure que ça se répand dans le cours d'eau, plus loin, ben, forcément, cette pollution se dilue. Donc ensuite, pour entrer un peu dans la notion donc, du test d'écotoxicité, on a réalisé des petites planches sur lesquelles sont dessinés 5 récipients contenant chacune des concentrations différentes d'un produit toxique. On leur propose une petite carte indice sur laquelle va être désignée une concentration pour laquelle, en fait, il va y avoir la moitié des organismes qui vont supporter le produit toxique qui est dans l'eau et la moitié qui vont décéder. C'est ce qu'on appelle la concentration CE50. Et donc à partir de ce petit indice qu'on leur donne, on leur demande de replacer des petites vignettes avec des petits smileys qui vont sourire ou qui vont faire la grimace selon comment ils pensent que les poissons, ils peuvent se sentir dans... ils vont supporter les concentrations qu'on leur présente sur la petite planche. Voilà.
Et donc là, il y a l'exemple avec de l'essence, de l'eau de Javel. Alors des choses un peu plus techniques telles que le dioxygène, c'est quoi?
Mais le dioxygène, c'est ce que nous on respire. Il y en a aussi dans l'eau pour par exemple les poissons, ils respirent aussi. Donc là, c'est un petit peu la petite planche un peu piège parce que finalement c'est pas toxique qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup. Ça ne va pas être toxique pour si on reste sur l'exemple des poissons, ça ne va pas être toxique pour eux. Si on a beaucoup, c'est vrai que par contre, ils seront mieux dans leur milieu, ils seront beaucoup plus en forme. Alors que si on a moins, ils seront plus prostrés, ils se déplaceront moins et auront peut-être moins tendance à vouloir se nourrir du fait qu'ils sont dans de moins bonnes conditions.
Et il y a un truc que j'ai gardé pour la fin, que j'ai mis de côté, qui a un impact assez important. Hop, c'est la crème solaire. Alors, la crème solaire, je pensais que justement les laboratoires fabricants de crème solaire avaient travaillé sur la non-toxicité de la crème solaire, mais ça reste et ça demeure vrai.
Alors normalement aujourd'hui oui, on a beaucoup de crèmes. Normalement avant ce qui était toxique dans les crèmes solaires c'est ce qu'on appelait les parabènes. Normalement aujourd'hui c'est interdit, on n'est plus censé oui les retrouver dans les crèmes solaires. Normalement quand on retourne les pots de crèmes solaires même souvent il y a la dénomination eco-friendly qui démontre que justement aujourd'hui ces crèmes solaires là ne contiennent plus de parabènes et tout ça. On l'a laissé pour montrer un exemple que justement bah, avant c'était des produits qui étaient toxiques mais que aussi les laboratoires de leur côté travaillent justement bah, pour limiter cette toxicité dans les milieux ou même pour nous puisqu'on les utilisait finalement.
Donc même si ça laisse une grosse tache d'huile lorsque l'on rentre dans l'eau, il y a un impact moins important. Mais est-ce qu'il y a toujours un impact ? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as connaissance de ça ou pas ?
Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, normalement, si on fait confiance au laboratoire, le fait qu'il y ait marqué éco-friendly devrait dire que normalement, il ne devrait plus y avoir d'impact. Donc, bon.
Faut-il faire confiance au laboratoire ? Là sera la question. Merci beaucoup. C'est quoi votre prénom ?
Guy.
Alors Guy, le tour des stands, qu'est-ce que vous retenez ?
C'est assez sympa. Moi, je me suis arrêté sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'était les abeilles.
Pourquoi les abeilles ?
Plus jamais de sucre et on fait tout au miel et donc il y avait un stand là-dessus et donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les abeilles.
Notamment, qu'est-ce que vous avez retenu comme information autour des abeilles ?
Surtout sur toute leur façon de vivre en fait hein, et leur de fabriquer le miel et surtout la vie commune des abeilles, la transmission des données, savoir où aller. C'est très intéressant.
L'intelligence collective des abeilles.
Exactement.
Est-ce que vous avez fait le tour d'autres stands, d'autres choses qui vous ont marqué ?
On a eu le temps parce qu'en fait, on était venu pour le musée de la porcelaine. Donc, c'est déjà prend beaucoup de temps. D'ailleurs, on n'a pas pu tout lire parce que c'est trop énorme. Donc voilà, on s'est arrêté juste à ce stand des abeilles parce que ça m'intéressait vraiment. Et le restant, on a passé tout notre temps dans le musée.
Donc ça veut dire que vous êtes venu au musée Adrien Duboucher pour voir la porcelaine de Limoges sans être au courant qu'il y avait la fête de la science ?
Exactement. Et on a vu, quand on est arrivé, on a vu ça. Donc c'était sympa.
Alors, nous sommes entourés de quelques lombriques. Quel est votre prénom ?
Dominique.
Dominique, au pied des lombriques, ça rime en plus. Autour donc eh bien, de matières végétales en décomposition. L'idée de ce stand, c'est quoi ?
L'idée de ce stand, c'est qu'on s'est rapproché du thème de la fête de la science, qui est l'intelligence. Mais notre association Préservons nos ressources en eau, en fait, son credo, c'est la protection de l'eau. Et entre autres, on pousse les gens à déconnecter les eaux pluviales pour infiltrer, rendre le chemin naturel de l'eau pluviale, c'est le sol. Et quoi de plus que développer justement ce qui nous permet de monter des projets d'infiltration, c'est le sol vivant. Et l'intelligence, elle se trouve en fait sous nos pieds, avec des micro-organismes que beaucoup de gens ne connaissent pas en fait.
Alors je le disais tout à l'heure, puisque j'ai vu les lombriques, c'est peut-être la face montrable de ce sol intelligent, et en l'occurrence il y a la face cachée, tel un iceberg, il se passe beaucoup plus de choses à une échelle microscopique.
Totalement. On va retrouver des ingénieurs, ce qu'on appelle les ingénieurs du sol, qui sont extrêmement petits, on va trouver des colomboles, mais on a aussi de la bactérie. On va avoir des filaments blancs qui sont de la mycorhization, en fait, qui est la première dégradation de la lignine, donc du bois, des fibres de bois. Il y a tout un monde extraordinaire avec en plus des insectes, des ingénieurs qui ont des têtes, qui ont des physionomies extraordinaires. Il y a de quoi faire des cauchemars aux enfants. Mais non, c'est extraordinaire, c'est vraiment un monde parfait.
Bah oui, c'est un monde magique, parce qu'on oublie aussi, c'est vrai qu'on parlait des champignons, et les champignons sont extrêmement présents et ont une place importante dans les sols. La problématique que l'on vit actuellement, c'est que justement, bien ces sols se dégradent, premièrement. Deuxièmement, c'est l'impact humain sur ces sols, à savoir à travers le fait que l'on coule du béton et du bitume un petit peu partout. Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Je pense notamment aux initiatives qui sont faites sur les parkings, où ce sont devenus, pour certains d'entre eux, des sols perméables. Est-ce que c'est un début d'une voie qui pourrait être encore mieux?
Ben nous, notre credo, c'est déconnecter vos pluviales, déconnecter vos gouttières. On n'arrête pas de demander au fait aux particuliers, on s'intéresse en fait aux particuliers. Le but de la création de l'association, c'est pour pallier en fait le manque d'énergie des collectivités à changer de braquet, à changer de vision concernant les eaux pluviales. Les gens devraient se poser la question, qu'est-ce que devient l'eau pluviale qui est tombée sur son toit? Bien souvent, les gens ne connaissent pas le chemin terrible que ces molécules d'eau vont prendre. Et bien trop souvent, elles vont prendre un chemin qui s'appelle en fait un réseau, un tuyau. On va avoir des tuyaux qui vont être en unitaire. Donc on va mettre de l'eau pluviale avec des eaux souillées, qui, au meilleur des cas, vont aller dans une station d'épuration pour être traitées. Mais bien trop souvent, en période de pluie un peu importante, ça va être largué directement dans le milieu naturel. Donc là, il y a un moment, il faut vraiment qu'on se pose la question. Et en fait, il est très simple pour tout un chacun de couper sa gouttière et d'envoyer l'eau dans son jardin. Et je viens de discuter avec des gens qui le font. Donc ils ont une cuve de récupération pour leur jardin. Et puis le trop-plein, il va dans leur jardin. Et je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien.
Il se passe que le sol profite de l'eau justement et que cette eau est absorbée. Et je donne un petit exemple comme ça, notamment autour des bassins d'orage, hein, ces bassins qui servent justement à récupérer l'eau de pluie en cas de pluie abondante, qui déborde souvent, qui déborde dans la rivière, notamment donc bien dans la Vienne à Limoges. Et c'est à ce moment-là où on peut voir de nombreux déchets comme ça circuler, notamment donc les lingettes. Et c'est bien de ne pas jeter donc les lingettes dans vos toilettes, ça serait super. L'une des améliorations que l'on pourrait faire aussi, ce serait justement ce recyclage de l'eau pluviale à travers donc la récupération du réseau existant qui est défectueux. Mais est-ce qu'un jour on pourrait se dire, tiens, l'eau pluviale, on va la récupérer, elle va aller dans des tuyaux et pourquoi pas être réutilisée dans nos toilettes, réutilisée à travers des bassins qui pourraient servir à la ville et à nous, chers utilisateurs, au quotidien?
Alors justement, ça fait résonance avec quelque chose que j'ai... On a discuté avec quelqu'un qui était très intéressé avec ça. C'est justement la personne qui me parlait, qui avait une cuve et puis qui le trop-plein partait dans son jardin. Et on a parlé justement de la récupération, parce qu'il me parlait des WC, la réutilisation des eaux pluviales dans les WC. L'association, on y est contre. On est contre, non pas par idéologie, mais on est contre parce que ça va générer plein de problèmes. Premier problème, on peut certes économiser 30% de la facture d'eau potable. Mais par contre, vous allez déstabiliser complètement l'économie du producteur d'eau potable. Ensuite, on va déséquilibrer l'assainisseur, l'économie de l'assainisseur. Mais les deux problèmes pour nous qui sont les plus essentiels, c'est que l'eau, on se plaint de ne pas en avoir assez. Donc ça veut dire qu'on va retirer 30% de l'eau qui va tomber dans le sol pour de la consommation courante. Ça c'est un vrai problème parce que la nature va nous le faire payer automatiquement. Et puis le quatrième problème, c'est le risque sanitaire. C'est-à-dire que si on développe ce genre de processus, ou même procédé, qui sont encadrés par une réglementation, donc c'est possible légalement en parlant, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour un particulier c'est tout à fait possible. Par contre, il faut des dispositifs de sécurité. Un disconnecteur par exemple, un disconnecteur nécessite d'être entretenu, donc ça veut dire qu'il y a une facture. Ça veut dire qu'il faut que les gens soient conscients qu'il va falloir engager une somme d'argent qui n'est pas des moindres pour vérifier le dispositif de sécurité. On peut être certain que beaucoup de gens ne le feront pas, sciemment ou par oubli, bien évidemment. Donc il y a un vrai risque sanitaire en même temps qui est porté. Par contre, la question qu'on me dit à chaque fois, donc vous êtes pour continuer à mettre de l'eau dans les WC, de l'eau potable dans les WC. Non, on peut trouver d'autres solutions. Et au sein de l'association, on a une solution qu'on aimerait développer, justement. Donc appel à des gens qui voudraient nous soutenir. On a une solution technique qui peut être transposable dans tout type d'habitation. qu'elles soient en construction, qu'elles soient déjà construites, appartements ou autres, on a une solution qu'il faudrait maintenant développer donc au stade d'une start-up par exemple.
Est-ce qu'on pourrait savoir quelle est cette solution ? Visiblement pas, parce que ça fait 30 secondes, une minute que tu me dis qu'il y a une solution, mais sans la dévoiler. Après, je comprends, puisque si derrière, il y a un développement économique en vue aussi, mais il y a une solution.
Bien sûr qu'il y a une solution. Elle est très simple en plus. Elle est relativement simple et puis très logique. Et puis, encore une fois, l'eau, je pense que l'erreur, c'est d'essayer d'en consommer toujours plus. Ce qu'il faut, c'est essayer d'en consommer moins tout en gardant une bonne qualité de vie, bien évidemment. On peut le faire. Un truc tout bête, des mousseurs sur des robinets, c'est quelque chose qui paraît complètement stupide, mais qui a fait économiser des millions de mètres cubes. Et sans dégrader la qualité de confort de l'habitation. Donc y a des solutions, bien sûr, il faut être très positif. Il y a vraiment des solutions.
Et quel est votre prénom ?
Guillaume.
Valentin.
Alors Guillaume et Valentin, la curiosité fête de la science ou bien musée Adrien Duboucher ?
La fête de la science.
Alors quelle était ton idée ? Pourquoi tu avais souhaité venir ?
J'ai déjà fait un stage à Récréscience qu'il organise et ça m'intéresse le science vu que je veux en faire mon métier plus tard.
Du coup, t'as traîné ton père avec toi ?
Un peu.
Un peu, oui, mais c'est exactement ça, oui.
Un attrait pour la science, le papa, ou pas du tout ?
Oui, toujours. Ça a été quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis mes études.
Okay. Et dans cette fête de la science, est-ce qu'il y a un stand en particulier qui a retenu votre attention ?
Le dernier sur la réalité virtuelle autour des molécules.
C'est... Ouais, c'est très simple. Pareil ?
Aussi, mais surtout celui sur l'eau avec le jeu de piste.
Okay. Et qu'est-ce que tu aimerais faire ? Est-ce que tu souhaiterais travailler dans un milieu scientifique ou pas ?
Oui, je souhaiterais devenir astrophysicien.
C'est une belle mission. On verra si tu réussiras dans tous les cas. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci.
Après, vous avoir parlé d'eau, on est à présent sur un stand de jeux en bois. Même si nous ne sommes pas là, évidemment, au salon du jeu en bois, nous sommes bien là pour la fête de la science. Alors, c'est quoi le rapport entre les jeux en bois et la fête de la science ?
Alors, le rapport, tout simplement, moi je fais du médium, découpe laser, brou de noix, et je mets des maths avec, et je mélange tout ça. Donc j'aborde beaucoup les maths, mais par le jeu.
Alors, un exemple. Prends quel exemple ?
Là, j'ai des engrenages non circulaires. Donc, c'est des choses qui ne tournent pas ensemble. Et pourtant, ça tourne. J'ai un carré, un triangle et un ovale. Donc, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est ce qu'on va retenir.
Les jeux sont basés sur quel type de mathématiques ? Est-ce que ça met en avant des connaissances globales, générales ?
Alors, je travaille avec un ancien prof de maths. Donc, on a des bases théorèmes. Pythagore est souvent là, Al-Kashi, différentes personnes comme ça. Donc, il y a des bases théorèmes. Après, on travaille essentiellement avec quelques mathématiciens vraiment intéressants par rapport au jeu, comme MacMahon, 19e, qui travaille sur les carrés et les couleurs. Donc, c'est vachement intéressant à les travailler parce que ça fait du jeu. Après, on est sur des quadratures, on est sur des pavages, on est sur des tangrammes, des taquins. Donc, la gamme de jeux est très étendue. Donc, soit on part... Moi, je travaillais sur mon chat, donc j'ai fait des découpes de chats et ça en est venu un puzzle. Donc ça, on peut partir totalement en dehors d'un jeu, des maths, pour arriver à un jeu. Après, on travaille sur des circuits, donc là, c'est des rapports de taille. Et... Donc c'est souvent de la géométrie, mais on n'aborde pas les maths en premier. On joue d'abord et après on explique et on dit « Tiens, t'as du Fibonacci derrière, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ou des petits mots comme ça.
C'est la troisième porte. D'accord, c'est
sympa pour les enfants. Ok, d'accord. On y va.
Bonne
chance. Au revoir.
Bonjour, c'est quoi ton prénom ?
Clémence.
Clémence et Delphine, vous êtes bénévoles pour la fête de la science et quelque chose qui est intéressant, justement, c'est pourquoi vous êtes devenus bénévoles ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Comment vous avez été au courant ?
Moi j'ai vu un post sur LinkedIn et je trouve la vulgarisation scientifique très intéressante, donc ça m'intéressait de participer à ce genre d'événement.
Ça veut dire que tu fais des études de scientifique, tu travailles dans ce milieu-là ?
Oui, je suis en master d'oncologie moléculaire et biothérapie à l'Université de Limoges.
Pareil, un appel sur les réseaux sociaux. Et pourquoi avoir répondu ? Et ben, tout simplement pour en profiter, pour voir les stands et puis participer à l'organisation pour que ça se pérennise dans le temps.
Et la curiosité personnelle, elle vient d'où ? Elle vient du cadre du travail ? Elle vient, je ne sais pas, pourquoi les sciences et pas autre chose ?
Formation scientifique, aujourd'hui. Enfin, d'avant, et puis aujourd'hui, je travaille pour la santé.
Alors, est-ce que c'est une expérience qui, pour l'instant, vous a plu ? Est-ce que vous aurez envie de revenir l'année prochaine ?
Bien sûr, avec grand plaisir.
Merci aux étudiants et aux étudiantes. Merci également donc, eh bien, à l'association des Jeux en Bois. Merci à Guy, merci à Dominique, à Guillaume, à Valentin, à Clémence, à Delphine. Et bien entendu, merci à Récréa Science. Et on se donne rendez-vous pour la fête de la science en 2026.